Trump, stop ou encore, partie de campagne américaine dans le grand entretien ce matin avec notre invité. C'est un diplomate au carré, ancien représentant de la France aux Nations Unies, ancien ambassadeur aux États-Unis. Il publiait récemment Passeport diplomatique, 40 ans au Quai d'Orsay. Il vit aujourd'hui à New York où il est vice-président de l'agence de communication Richard Attias et Associés. Bonjour Gérard Haro.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter et j'allais dire bienvenue chez vous puisque dès la rentrée de janvier, on vous retrouvera tous les vendredis dans le 7-9 pour une chronique sur la campagne présidentielle américaine. Le titre est déjà tout trouvé. Good morning America.
Good morning America. Bon, bah, très bien.
Bonjour l'Amérique. Je le dis en plaisantant parce que c'est un mot, c'est une manière de s'adresser le Good morning America au plus grand nombre pour raconter ce qui semble quand même extrêmement compliqué à suivre. Cette campagne-là, la campagne présidentielle de 2020, est encore plus illisible peut-être que la précédente, celle de 2016.
Alors oui, 2020, ce sera une campagne absolument passionnante, pas du côté républicain, puisque du côté républicain, le candidat, ce sera Trump, mais du côté démocrate, où vous avez un vrai combat entre, je dirais, le retour de la gauche, d'un côté, et de l'autre, les démocrates classiques, qui voudraient avoir une campagne centriste, et à l'américaine, c'est-à-dire avec 21 candidats, et beaucoup d'inconnus.
21 candidats aujourd'hui, et on ne sait pas qui l'emportera, ni quelle ligne politique l'emportera dans le Parti démocrate.
Exactement, parce que d'habitude aux États-Unis c'est souvent une question de personnalité simplement, mais là vous avez deux lignes politiques, une vraie ligne politique de gauche avec Warren Sanders et sinon beaucoup de candidats centristes.
Les candidats centristes qui en seraient l'incarnation la plus forte,
oh ben,
ou
l'incarnation
la plus
naturellement c'est Biden.
Joe Biden, ancien vice-président.
Ancien vice-président, sénateur pendant 34 ans. Joe Biden c'est le personnage à la, vous savez, les films de Frank Capra, c'est-à-dire celui qu'on ne peut qu'aimer parce qu'il est sympathique, il est assez beau gosse, il a eu des grands malheurs dans sa vie, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture, il y a quelques années son fils d'un cancer du cerveau foudroyant, mais il a 78 ans et il fatigue.
Il fatigue, mais même Michael Bloomberg, qui est à peu près du même âge, qui était l'ancien maire de New York, qui est milliardaire, bien plus riche que Donald Trump, ne semble pas pouvoir s'imposer dans une compétition où on le sait, l'argent est le nerf de la guerre.
Alors oui, parce que Biden, tout le monde se rend compte que cette candidature est faible, et donc vous avez au centre des candidats qui se placent pour... en cas de défaite de Biden, en cas de retrait de Biden. Et vous avez parmi eux, très récemment, vous avez Bloomberg, 80 milliards de dollars, ancien maire de New York, ancien républicain d'ailleurs, qui s'est lancé dans la campagne. Alors, il arrive juste, donc il est trop tôt pour savoir s'il a une chance. Mais enfin, quand même, hein, c'est un milliardaire de New York, ce qui ne le rend pas très populaire auprès des militants. Moi, Michael Bloomberg m'a dit personnellement, mon problème, c'est la primaire, c'est les militants démocrates.
Il faut qu'il franchisse cette étape.
Voilà, il faut qu'il franchisse cette étape. Lui est assuré, dit, si je franchis cette étape, si je suis le candidat démocrate, je bats Trump.
Qu'est-ce qui lui a permis de penser ça? Est-ce qu'il vous l'a dit?
Oui, il me l'a dit personnellement. Et vous savez, quand on, aux États-Unis, ça veut dire qu'il a fait toutes les études possibles imaginables. Il a dépensé des fortunes en sondage. Il en est convaincu. Alors aussi, il y a aussi le fait que lorsque vous êtes milliardaire à 80 milliards de dollars, d'habitude, vous pensez toujours que vous l'êtes parce que vous êtes meilleur que les autres.
Ça, c'est certain. En tout cas, ils doivent forcément le penser. Dans Good Morning America, il sera question beaucoup et très largement de la procédure d'impeachment. C'est une procédure juridique qui est très compliqué, qui pourrait aboutir, et je prononce le conditionnel à dessein pour la destitution de Donald Trump, c'est quelque chose qui pèse, qui compte dans la campagne, ou est-ce que c'est finalement pas si important que ça? Est-ce que ça hypothèque les chances de Donald Trump?
Alors d'abord, je suis diplomate, mais néanmoins, là, je ne pratique pas le conditionnel. Non, la destitution, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas parce que les sénateurs républicains font bloc derrière Trump. C'est aussi d'ailleurs une autre caractéristique de la campagne. Trump a trumpifié le parti républicain. Ça n'aboutira pas. La question est de savoir si cette procédure, tout le bruit autour de Donald Trump, va lui porter ombrage, et notamment auprès des électeurs centristes. Ces électeurs traditionnellement républicains, républicains, mais qui ne peuvent pas supporter Trump, et qui, aux législatives de 2018, sont passés du côté démocrate, et donc savoir est-ce qu'ils vont rester démocrates, ou est-ce qu'ils vont aller vers Trump, qu'ils n'aiment pas. Au fond, le choix qu'ils auront, alors on l'a souvent dans les élections, c'est entre le portefeuille et le cœur. L'économie américaine va très bien, et oui, c'est ce que dit Trump. Trump dit, vous ne m'aimez pas, il le dit comme ça, parce que c'est du Trump, c'est carré, vous ne m'aimez pas, mais regardez votre portefeuille.
Très peu croyaient en lui en 2016. Très peu de personnes avaient parié sur la victoire de Donald Trump. Là, pour la présidentielle de 2020, c'est beaucoup plus partagé. À regarder les éditoriaux en France notamment, on a l'impression qu'il est quasiment assuré d'être réélu. Alors que dans les sondages, tout indique le contraire. C'est très compliqué. Pourquoi ce qui semblait impossible semble aujourd'hui quasiment certain, Gérard Haut?
Bah d'abord, c'est vrai que personne n'a vu venir l'élection de Trump, et d'ailleurs moi le premier, je dois l'avouer. Alors aujourd'hui, les gens, d'abord, ils ne veulent pas apparaître stupides une seconde fois, donc tout le monde dit il peut être réélu, on l'avait pas vu venir la première fois, oui, donc la seconde fois, on veut pas non plus paraître totalement stupide. Il a une base de 35 à 40%, qui est une base totalement fanatisée. Comme il dit, si je tuais quelqu'un sur la 5e avenue, de toute façon, il voterait pour moi. Mais il n'a jamais réussi à élargir sa base, parce qu'il est tellement agressif que, comme je l'ai dit, des électeurs centristes en ont un peu assez de ses excès. Donc tout dépendra du candidat démocrate. Beaucoup pensent que si c'est un candidat de la gauche démocrate, Warren ou Sanders, il peut être réélu. Personne ne pense qu'un candidat de gauche peut être élu aux États-Unis. Cela étant, en 2016, personne pensait que Trump pouvait être élu. Et nous sommes dans une période de bouleversement de la vie politique, pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et d'ailleurs, la situation en Europe, aux États-Unis, se ressemble énormément. Les électeurs de Trump, Brexit, les Gilets jaunes, la Lega en Italie, c'est un peu la même rébellion d'une partie de nos citoyens.
Et d'ailleurs, si on regarde des deux côtés de l'Atlantique, il y a un phénomène assez fascinant, c'est qu'il n'y a que les Américains, par définition, les citoyens américains qui élisent leur président, et encore très peu d'entre eux, mais le monde entier semble concerné, comme si nous avions, nous, voix au chapitre, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais d'où ça vient, cette sorte d'illusion que nous devrions aussi être consultés sur l'élection du président américain?
D'abord parce que l'élection d'un président des États-Unis a des conséquences directes sur notre vie et quasiment sur notre vie quotidienne. La manière dont il va gérer le dollar, par exemple, les sanctions qu'il imposera ou qu'il n'imposera pas, la guerre qu'il fera ou qu'il ne fera pas. Vous venez d'entendre avant cette émission des références à la guerre en Libye, ce qui se passe entre l'Égypte ou la Turquie. Oui. Mais ça, ce n'est possible que parce que les États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump, ont décidé de se retirer du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe quand les États-Unis se retirent? Vous le voyez, c'est le bordel, parce que tous les pays de la région font à peu près ce qu'ils veulent, ce qu'ils n'auraient pas fait sous leadership américain.
D'après vous, il y a un retour de l'Amérique isolationniste et il est clair maintenant que les États-Unis se tourneront davantage sur eux-mêmes plutôt que d'intervenir ailleurs dans le monde.
Oui, parce que vous regardez, ça avait déjà commencé sous Obama, c'est le conflit en Ukraine, le conflit en Syrie, les États-Unis n'ont pas agi ou ont agi très très peu, les Américains ne veulent plus être les gendarmes du monde et donc ils n'interviendront plus dans les conflits qui ne concernent pas directement leurs intérêts. J'ai passé 2 ans et demi à Washington à essayer de les intéresser au conflit libyen, que ce soit sous Obama ou sous Trump, la réponse a toujours été négative.
Ça ne les intéresse pas.
Ça ne les intéresse pas parce que leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu. Et donc, et c'est un peu ce que dit Emmanuel Macron aux Européens en disant, cela étant, la Libye, la Syrie, l'Ukraine, c'est notre problème. Nous, les Européens, nous devrions nous en occuper parce que les Américains ne feront pas le travail.
Alors, comment expliquer, Gérard Haut, que les États-Unis se retirent aujourd'hui d'Afghanistan? On apprend qu'ils négocient avec les talibans, ce qui était absolument impensable, oui, il y a encore quelques années, mais ils s'apprêtent à quitter le pays militairement. Pourquoi est-ce que ce qui relevait justement de leur intérêt national dans les années 2000, aujourd'hui n'est plus perçu comme important?
C'est-à-dire que, au fond, je crois que le raisonnement est différent, c'est que les Américains se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Et que s'ils y sont depuis 20 ans, mais ils peuvent encore y être pour 30 ans de plus. Et la différence entre Trump et ses prédécesseurs, d'ailleurs Trump étant assez proche d'Obama, c'est que Trump veut ramener les boys aux États-Unis, veut rappeler les soldats. Trump n'est pas un belliciste, c'est pas un néoconservateur, c'est plutôt un isolationniste, et donc il est plein d'une sorte de bon sens. Souvent, ce qu'il dit est assez juste,
de bon
même
sens.
Brutal. Oui, il a beaucoup de bon sens, Donald Trump. Par exemple, lorsqu'il dit, je change un peu de sujet pour parler de l'OTAN, il dit aux Américains, mais pourquoi est-ce qu'on défendrait le Monténégro ? C'est vrai, pourquoi est-ce que les Américains défendraient le Monténégro ? Et donc là, il dit, pourquoi est-ce qu'on va rester 30 ans de plus en Afghanistan, puisque de toute façon, le résultat sera le même, on ne peut pas gagner la guerre en Afghanistan.
Et c'est malgré tout un très grand mensonge, puisque des révélations récemment ont été faites, publiées notamment dans le New York Times, où l'on apprend que les administrations américaines ont successivement, l'armée américaine a successivement menti aux États-Unis, aux Américains et au monde entier en affirmant qu'ils étaient en train de remporter la guerre d'Afghanistan.
Et n'oubliez
ça
pas,
ça se termine comme le Vietnam.
Un petit peu, ça risque de se terminer comme le Vietnam. N'oubliez pas que Trump, c'est vraiment pas n'est vraiment pas l'émanation de l'état profond américain. Il est en guerre avec cet état profond, avec l'état-major, avec les administrations. C'est un vrai dirigeant populiste qui considère qu'il doit faire la politique différemment, et il est prêt à la faire différemment, et donc à décider non seulement le retrait d'Afghanistan, mais comme vous l'avez dit, la négociation avec les talibans.
Lorsqu'on regarde aujourd'hui les Nations Unies, il y a des projets de résolution, par exemple, pour mettre fin à la catastrophe humanitaire à Idlib, dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, que ces projets de résolution sont systématiquement bloqués par la Russie, par la Chine. Vous qui connaissez très bien le fonctionnement des Nations Unies, aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que cette institution est morte ou qu'elle est en état de mort cérébrale, elle aussi, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron à propos de l'OTAN ?
Vous savez, les Nations Unies, ça ne fonctionne que lorsque les grandes puissances sont d'accord entre elles. Et donc, jusqu'à la fin de la guerre froide, par exemple, les Nations Unies ne fonctionnaient pas du tout. Le Conseil de sécurité se réunissait une fois par mois, et c'était pour approuver son ordre du jour qui était vide. Et donc, aujourd'hui, on est dans une période d'affrontement entre les grandes puissances sur, en gros, deux sujets, la Syrie et l'Ukraine. Ça fonctionne sur les autres sujets. Mais dès qu'il y a un désaccord entre les grandes puissances, c'est bloqué. C'est la logique même du Conseil de sécurité. En donnant le droit de veto aux grandes puissances, on a fait en sorte que les grandes puissances ne quittent pas les Nations Unies comme elles avaient quitté la Ligue des Nations avant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi qu'ils puissent être bloqués. En Syrie, c'est simple. Assad a gagné. La Russie considère qu'il faut finir ça le plus vite possible. Et évidemment, la Russie est totalement indifférente au prix humain de la victoire.
Et en l'occurrence, le veto l'emporte sur le poids politique et militaire des autres pays qui voudraient intervenir, les États-Unis par exemple, ou la France.
D'abord, les États-Unis, je le répète, comme pour la Libye, les États-Unis, disons-le pour parler vulgairement, se foutent complètement de la Syrie.
Et Trump pourtant, ne va Donald pas rentrer. Trump a demandé que les populations civiles soient respectées et qu'elles ne soient plus l'objet de blocus comme elles le sont aujourd'hui.
C'est déclaratoire, hein. Il n'ira absolument pas plus loin. Il a retiré les troupes américaines du nord de la Syrie, et je peux vous dire que la diplomatie américaine ne fait absolument rien sur la Syrie. Au fond, sur la Syrie, il n'y a plus que les Européens qui sont encore attachés aux valeurs, aux questions humanitaires, et aussi c'est par intérêt, parce que la chute d'Idlib, ça peut entraîner 2 millions de réfugiés de plus en Turquie, les Turcs peuvent être submergés par cela, et donc avec des pressions migratoires, des problèmes migratoires vers la Grèce, et vous avez aussi des milliers de djihadistes qui risquent de partir dans la nature, et parmi eux, naturellement, il y a beaucoup d'Européens.
La parole aux auditeurs du 7-9. Bonjour Frédéric et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour Inter, bonjour à tous, monsieur Haro, bonjour. Je voulais vous demander pourquoi le président Trump qui prétend ne pas intervenir et qui de fait intervient, si ce n'est militairement, du moins commercialement et diplomatiquement, et en particulier cherche à déstabiliser l'Iran après s'être retiré de l'accord vertueux qui avait été conclu avec ce pays. Pourquoi est-ce que les puissances internationales, la France, l'Europe, je pense à la Chine, ne s'opposent-elles pas à cette politique de déstabilisation de l'Iran ?
Gérard Haro.
C'est une très bonne question. En réalité, l'Europe et la Russie, la Chine, essayent de s'opposer à cette politique de déstabilisation en défendant l'accord nucléaire iranien auquel vous référiez et que les Américains ont dénoncé. Mais on se trouve dans une situation qui révèle les vrais rapports de force dans le monde. C'est-à-dire qu'au fond, les Américains disent aux entreprises européennes, françaises, européennes, russes et chinoises, Vous pouvez faire du commerce avec l'Iran, mais si vous en faites du commerce avec l'Iran, vous en ferez pas aux États-Unis. Et aucune entreprise, y compris chinoise, n'hésite plus de 45 secondes, évidemment, entre les marchés américains et les marchés iraniens. Et ça, chinois, européens ou russes, nous n'y pouvons pas grand-chose.
Vous diriez que la France, aujourd'hui, est faible sur la scène internationale, Gérard Araud ?
Non, vous savez, à l'heure actuelle, mais je dis c'est un peu par défaut. Un peu par défaut parce que vous avez le Royaume-Uni qui est perdu dans la crise du Brexit. Vous avez l'Allemagne qui ne veut pas assumer les responsabilités de la puissance. D'une certaine manière, quand j'étais à Washington, c'est très, très clair que l'interlocuteur européen, c'était la France. Mais, comme je le répète, la France un peu par défaut.
Un peu par défaut parce que l'Europe politique, l'Europe diplomatique n'existe pas. Il n'y a pas l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères qui aurait du poids comme un ministre des Affaires étrangères ou un secrétaire d'État américain en a.
Ben, ça dépend des sujets. Sur des sujets comme le changement climatique, comme la régulation de l'Internet, il peut y avoir une unité européenne. Mais disons-le, dans les domaines politiques, beaucoup de sujets, les pays européens ne sont pas d'accord. Et donc, par définition, du coup, il peut pas y avoir de politique européenne.
Vous preniez l'exemple de Donald Trump pour parler de son bon sens. Comment qualifier la politique étrangère d'Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron est un réaliste lui-même. Le président de la République est un réaliste lui-même et qui, face à chaque problème, essaye de trouver des solutions réalistes. Par exemple, lorsqu'il dit « parlons aux Russes ». Mais vous savez, les gens le retiennent qu'il l'a dit en 2019, mais il l'avait déjà dit dès 2017, dès son élection. Donc il essaye de parler à tout le monde, ce qui est finalement la tradition diplomatique française.
Ça ne veut pas dire que la France abandonne son rôle de porteuse d'un certain nombre de valeurs, de rappel des déclarations des droits de l'homme, par exemple.
Vous savez, défendre les droits de l'homme, on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire de manière très déclaratoire, donc on se fait plaisir, mais ça ne change pas grand-chose. On peut le faire dans des contacts quotidiens, dans une action diplomatique régulière, pour essayer au cas par cas de faire progresser les droits de l'homme. Mais cela étant, nous sommes dans une position défensive, hélas, aujourd'hui, sur les droits de l'homme. Les puissances hostiles aux droits de l'homme sont, elles, sont en train d'avancer.
Bonjour Gérard et bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que l'élection de Donald
Trump,
est-ce que l'élection de Donald Trump n'est pas aussi un peu le résultat du boycottage de la candidature de Sanders au Parti démocrate ?
Gérard Araud.
Oui, c'est en effet une des hypothèses. Les études prouvent que, je crois, presque le cinquième ou même le quart des électeurs de Sanders n'auraient pas voté pour Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'était la pire des candidates. Alors, on peut le dire maintenant rétrospectivement. C'était une élection de rébellion en 2016, comme d'ailleurs, à mon avis, ce sera une élection de rébellion en 2020. Et la rébellion aux États-Unis, c'était contre Wall Street et contre Washington. Et il faut bien dire, Hillary Clinton, c'est Wall Street et c'est Washington. Non seulement elle n'était pas très, très bonne personnellement, mais en plus, symboliquement, c'était une mauvaise candidate et l'aile gauche n'a pas voté pour elle.
De quoi ont besoin les démocrates pour l'emporter face à Donald Trump ?
Les démocrates, c'est une vaste coalition. C'est une coalition tout d'abord de minorités, les noirs, les femmes, c'était une majorité, les femmes, les latinos, les gays. Mais il faut aussi attirer naturellement, comme dans toute démocratie, il faut aussi attirer la classe moyenne.
La classe moyenne qui est au centre des préoccupations à la fois aux États-Unis comme ici en Europe et particulièrement en France. Question Gérard Araud sur l'application France Inter. Question de Marie. Avec un peu de recul, l'intervention en Libye de 2011 était-elle une bonne chose ? Et nous entendions Anthony Bélanger en parler dans Géopolitique de la situation libyenne.
Alors je vous réfère à mon livre, à mes mémoires, Passeport diplomatique, parce que c'est une question que je me pose, parce que j'étais celui qui était à la manœuvre. Hein, j'étais le représentant permanent à New York, donc j'avais instruction
aux Nations Unies,
j'avais instruction de faire passer la résolution autorisant l'intervention militaire, la résolution 1973, et je m'interroge évidemment sur les résultats de cette intervention. Vous savez, en politique étrangère, c'est comme dans la vie réelle, vous ne prenez pas de bonnes décisions, vous prenez des mauvaises décisions. Vous faites des paris sur un avenir que vous ne connaissez pas. Très rapidement, je dirais, pour les Européens, il aurait sans doute été mieux de garder Kadhafi. Parce qu'après tout, Kadhafi contrôlait le système, et notamment contrôlait les migrations. En ce qui concerne les Libyens eux-mêmes, n'oublions pas que c'était une dictature affreusement sanglante. Là, je dis, c'est aux Libyens de répondre.
Bonjour Alvaro, et bienvenue sur Inter.
Bonjour, merci de prendre ma question. Écoutez, je suis en français d'origine mexicaine et je voudrais poser à votre invité comment il voit les relations avec le Mexique et le Canada, ses voisins. Est-ce qu'il va continuer à construire le mur? Est-ce qu'il va continuer à renvoyer les émigrés mexicains et centro-américains? Merci de votre réponse.
Merci Alvaro. C'est Donald Trump.
C'est Donald Trump. Naturellement, il va continuer à le faire. Donald Trump n'a qu'une vision des relations internationales, c'est le rapport de force le plus brutal. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il y a des rapports de force. Donc, il tord le bras des autres, et comme les États-Unis sont les plus forts, en général d'ailleurs, il l'emporte. Vis-à-vis des Canadiens, donc ça a été la révision de l'accord de commerce pour essayer de le rendre plus favorable aux intérêts américains. Il a fait la même chose avec le Mexique, et en ce qui concerne les migrations et le mur, c'est le centre même de sa campagne. Il va donc, malgré les obstacles, continuer à bâtir le mur et naturellement à faire de ce qu'il avait appelé, je vous rappelle qu'il avait lancé sa campagne en 2015 en disant « je fais campagne contre les violeurs mexicains ».
Oui.
Et bien il va continuer à le faire et il va continuer à renvoyer les Mexicains au Mexique. Et le Mexique, vous savez, disait « nous sommes si loin de Dieu, si proches des États-Unis », disait-il au début du XXe siècle, eh bien le Mexique n'a pas d'autre solution que de garder de bonnes relations avec son voisin du Nord.
Question que vous pose Baptiste sur l'application de France Inter. Les Américains sont-ils toujours ceux qui, dans le monde, donnent le « là » ? N'est-ce pas la Chine aujourd'hui ?
Alors, je dirais que les États-Unis restent et resteront pendant au moins une ou deux décennies par de loin la première puissance économique, militaire et d'une certaine manière culturelle du monde. Mais il y a un rééquilibrage, c'est évident. Les gens parlent de la fin de l'ordre libéral. Non, en réalité, c'est tout simplement un rééquilibrage aux dépens des États-Unis, c'est-à-dire, il faut bien le dire, aux dépens de l'Occident. Et la complexité...
Alors qu'on s'intéresse très peu à la politique chinoise.
Comment ?
On s'intéresse très peu.
On s'intéresse en Europe, on s'intéresse très peu. Or, il va falloir pour les Européens définir leur place dans cette nouvelle confrontation globale entre d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine. Évidemment, les Américains nous disent de regagner leur camp.
Vous avez une longue carrière diplomatique, vous connaissez parfaitement les usages du Quai d'Orsay. Est-ce que d'après vous, Ségolène Royal outrepasse son rôle ou son devoir de réserve en prenant position sur la scène publique?
Alors, de nouveau, le droit de réserve, on m'a accusé d'avoir été un peu léger sur le devoir de réserve moi-même.
Notamment quand vous étiez ambassadeur aux États-Unis.
Exactement, mais en même temps, c'est vrai que pour être ambassadeur au 21e siècle, on ne peut pas l'être comme on l'était à l'époque de Talleyrand ou de Couvenne-Murville. Là, je pense que la déclaration à laquelle vous référez, oui, elle rentre à l'évidence de plein pied dans la vie politique française.
Et comment expliquer quelle est cette liberté-là? Il faudrait la sanctionner?
Ça, je redeviens ambassadeur et je dis donc, je laisse.
Ah non, vous ne pouvez pas, vous avez
président.
Quitté. Vous
oui,
avez
je
quitté
pense
la fonction,
que, je pense que là, elle, vous avez raison. Oui,
vous
elle
avez
a
passé
quitté,
40 ans au Quai d'Orsay.
Là, elle rentre dans la vie politique et donc elle devrait démissionner de son poste d'ambassadeur au pôle.
C'est très clair. Vous travaillez pour une agence de communication internationale, celle de Richard Attias à New York. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les forums, les grandes réunions qui peuvent être organisées à travers le monde et les institutions, la diplomatie institutionnelle qui, elle aussi, réunit parfois des profils de chefs d'État, d'entrepreneurs qu'on pourrait retrouver dans des enceintes plus politiques.
Je crois qu'en réalité, ces deux formes d'enceintes se rejoignent très largement. Pour moi, l'exemple même de la nouvelle diplomatie, c'était la COP21, vous savez, qui avait organisé la France en 2015 pour lutter contre le changement climatique, qui avait été un grand succès. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de la diplomatie qu'avec des diplomates. Je le regrette, mais c'est un fait. Un grand nombre de sujets ne peuvent plus être traités seulement par les États. Il faut y associer le secteur privé, les ONG, voire les philosophes, pour parler ensemble de notre avenir. Par exemple, l'intelligence artificielle, l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est un sujet central pour demain. On le voit bien avec le développement de la société de surveillance par les Chinois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Eh bien ça, il faut en parler ensemble. Et c'est ça que je trouve excitant aussi dans mon nouveau métier. C'est d'essayer de ramener autour de la table tout le monde et pas seulement des diplomates.
Et vous avez un autre nouveau métier qui est donc maintenant de raconter la campagne présidentielle américaine dès le mois de janvier, tous les vendredis dans le 7-9 d'Inter. Good morning America, mais vous devez le dire mieux que moi. Essayez, Gérard Araud.
Good morning America.
C'est pas mal.
Je me suis jamais débarrassé de mon accent français, il faut bien dire, après 14 ans aux États-Unis.
Mais c'est très chic.
Et tout le monde trouve ça tout à fait chic et charmant.
Voilà. Merci Gérard Araud.